France Culture.
Et c'est reparti pour les Midi de Culture. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, Marie Lozier et la musicienne Peaches seront mes invités. Mais tout de suite, place au Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Joël Dicker, l'écrivain genevois aux plus de 15 millions de livres vendus, traduit en 40 langues, est de retour chez Rosian Wolf, la maison d'édition qu'il a fondée en 2021. Alors l'histoire, c'est une visite scolaire dans un zoo qui tourne à la catastrophe. Les parents de Joséphine veulent comprendre ce qui s'est passé. Et voilà l'enquête qui démarre. L'écrivain a construit ce roman avec la recette narrative qui explique son immense succès, du suspense à chaque page. Le nouveau roman de Joël Dicker, c'est le dossier du Point Culture du jour. Joël Dicker, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau roman, la très catastrophique visite du zoo, c'est bien ça, je l'ai bien dit, vient de paraître dans votre maison d'édition, Rosier Wolf. C'est une nouvelle enquête, mais qui s'adresse cette fois-ci à un public plus large, plus jeune. Pourquoi avoir voulu écrire pour des lecteurs, alors je vous cite, de 7 à 120 ans?
Parce que j'avais envie de pouvoir proposer un livre qui se partage, qui s'offre. Un livre qui donne envie de lire, très modestement et très humblement, mais... J'ai vu tellement de gens en librairie et j'ai eu le plaisir de rencontrer tellement de gens de tous âges, de tous horizons qui se retrouvaient en librairie pour parler de livres et pour échanger, que j'ai eu envie de proposer quelque chose qui puisse se passer de main en main et qui soit un sujet de conversation et qu'on puisse se retrouver sur un livre.
Alors dans votre post-fast, justement, vous vous inquiétez de la fermeture de certaines librairies et de notre attention, plus souvent requise par un écran que par un livre. Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'écrivain, vous avez un rôle à jouer ?
Je crois qu'on a tous un rôle à jouer, pas que les écrivains. Je crois, mais vous avez raison, je crois que l'industrie du livre a un rôle à jouer parce qu'elle est directement concernée par ça. Mais je crois que les parents, les profs, les voisins, les conducteurs de métro, qui que vous soyez, où que vous soyez, lire et faire lire vos proches, vos enfants, vos parents, les gens qui ne lisent pas, vos collègues, je crois que c'est une mission commune pour le bien commun. Et assez simple au fond, il suffit de s'offrir un livre, de trouver le bon livre et de le donner à l'autre. C'est assez facile.
Mais ça veut dire que vous, quand vous écrivez, vous pensez à vos lecteurs? Vous pensez à se lire et faire lire?
Non, alors je trouve que la grande chance dans un succès de livre, c'est qu'il y a une telle décorrélation entre le moment de l'écriture et la parution du livre. Il y a des mois, parfois une année, parfois plus, qui se passent. Et donc, le livre paraît, par exemple, quand mon précédent roman, Un animal sauvage, qui est un livre de braquage et un polar, thriller, comme ça, est paru... J'avais déjà terminé de l'écrire depuis 8 ou 9 mois. J'étais déjà sur le zoo, donc une histoire complètement différente. J'étais complètement ailleurs. Et je trouve justement que cette décorrélation permet de ne pas penser au lecteur, de ne pas avoir une obsession au lecteur, du lecteur, de ne pas penser au succès et d'être capable d'être authentique, de faire le livre qu'on a envie de faire.
Mais là, par exemple, le livre sort ces jours-ci. Est-ce que vous vous inquiétez de la réception du livre? Est-ce que c'est un moment particulier, le moment où le livre arrive dans les mains du lecteur?
Mais j'ai très heureusement le trac. et je dis heureusement, et c'est un sentiment génial, parce que quand on a le trac, ça veut dire qu'on a mis, du cœur, on a mis du cœur dans notre livre, on a mis nos tripes, on a vraiment hâte de savoir, on a cette appréhension. Et elle est bien, cette appréhension. Ça veut dire qu'on s'en fout pas.
Votre narrateur, cette fois-ci, est un enfant. Est-ce que c'est un exercice d'écriture particulier de se mettre justement dans la tête d'un jeune enfant pour écrire? Le jeu est un peu différent cette fois-ci.
Le jeu aussi.
Oui.
Non, mais alors ce qui est hyper intéressant, et je l'ai fait au début parce que j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre. J'ai fait des narrateurs hommes, femmes, narrateurs à la première personne, narrateurs à la troisième personne. J'avais envie de changer. Et j'ai essayé une enfant juste pour voir et je me suis rendu compte que ça offrait une liberté de ton assez extraordinaire. Et ça permettait d'aborder des thématiques et même parfois d'aborder le ton de l'humour sans s'inquiéter, sans se poser trop de questions, sans se demander si on va être compris, jugé ou pas, parce que les enfants, ils ont ce côté complètement relax, complètement honnête, que j'ai trouvé très agréable.
Vous avez une référence, vous vous êtes basé sur un enfant en particulier, vous vous êtes documenté pour écrire comme un enfant. Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on vous lit, que c'est une petite fille qui nous parle.
Mais vous me posez la question comme si je vous parlais d'un extraterrestre ou d'un animal ou je ne sais pas quoi. Un enfant, vous savez, on l'a tous très très bien connu, au moins un enfant, c'est nous. Et non mais ça, parce que je trouve qu'on devrait être capable ou qu'on devrait faire ce travail. C'est difficile de le faire, mais de se souvenir de l'enfant qu'on a été, parce que la personne adulte qu'on est aujourd'hui dans nos réactions, dans notre façon d'être, dans notre comportement, dépend complètement de l'enfant qu'on a été. C'est jungien, ce puer eternus qui est encore en nous. Et il faut essayer de lui parler, il faut essayer de le comprendre, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Est-ce que vous avez pensé ce livre pour qu'il puisse être lu à haute voix. Vous dites souvent lire et faire lire, mais pour faire lire, ça veut peut-être dire des parents ou des grands-parents qui vont s'emparer de votre livre et le lire à des enfants qui n'ont pas encore une lecture aisée. Est-ce que vous l'avez proféré ce livre pour voir s'il donnait quelque chose à l'oral ?
Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, mais je lis toujours à voix haute à un moment donné, parce que la lecture à voix haute est la seule façon de vraiment relire, de véritablement relire son propre texte. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on lit dans sa tête, on rate des mots, on mange des mots, on saute une ligne, on ne se rend même pas compte qu'il manquait un mot et on l'a lu quand même. Alors, quand on lit à haute voix, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a une incohérence, s'il y a quelque chose qui sonne faux. Et donc, je l'ai fait surtout pour ça.
On parle beaucoup d'enfants depuis le début de cette interview, mais vous l'avez dit, ce livre, il est à destination de tout le monde. Comment on fait quand on mène une enquête, quand on écrit un livre comme le vôtre, pour qu'un adulte puisse s'y intéresser autant qu'un enfant de 7 ans ?
Mais tout le monde aime une bonne histoire. Quand vous êtes à un dîner de famille avec 3 générations, et que tout d'un coup, l'un de vous, que ce soit un enfant ou le grand-parent, raconte une histoire. Et la raconte avec un peu de talent qui fait que tout le monde se tait. Et on l'écoute, on est captivé. Et on ne se dit pas, est-ce que moi, enfant ou moi, adulte, je peux écouter l'histoire de celui-ci ou de celui-là parce qu'on n'est pas de la même génération, pas du même âge. C'est la force de l'histoire, c'est la force de l'oralité. Et c'est pour ça que je suis convaincu que les podcasts qui deviennent des choses très actuelles et très branchées, qui existent depuis toujours, il y avait la radio qui est toujours là et on est là ensemble, mais on écoutait beaucoup la radio, maintenant on l'écoute sous d'autres formes, mais moi j'avais toujours un poste ouvert chez moi. Et puis avant ça, il y avait la tradition orale, le fait de conter quelque chose, et donc on est complètement dans ça.
Dernière question avant de finir cet entretien, vous avez créé votre propre maison d'édition. Oui. Est-ce que ça vous permet toutes les libertés aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez pu sortir ce livre-là, qui est donc un livre tout public, si vous n'aviez pas votre propre maison d'édition ?
D'abord, je me pose pas tellement cette question. Et puis, si je n'avais pas créé ma propre maison d'édition, je serais un homme heureux. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que Bernard de Fallois, mon éditeur bien-aimé, serait toujours là. Et je suis certain qu'il l'aurait fait avec plaisir, parce que je pense que ce livre l'aurait amusé. En tout cas, je l'espère très sincèrement.
Merci beaucoup, Joël Dicker. Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on sait enfin où prendra place la future maison des mondes africains.
Oui, nous vous en parlions en novembre dernier. Aucun lieu n'avait été encore trouvé pour accueillir la maison des mondes africains. Après avoir été un temps envisagé à la Monnaie de Paris, la Mansa va finalement s'installer dans un ancien atelier situé dans le 10e arrondissement. Ce projet, voulu dès 2021 par Emmanuel Macron et l'université Achille Mbembe, a pour objectif de mettre en avant les cultures africaines contemporaines en France. Le lieu ouvrira donc ses portes au public dès juin prochain.
Le prix Pritzker, l'équivalent du Nobel en architecture, vient d'être décerné.
Et c'est l'architecte chinois Liu Jiankun qui vient de remporter cette prestigieuse récompense pour l'ensemble de son travail. Peu connu du grand public, il a réalisé l'entièreté de sa carrière en Chine, où il a construit une trentaine d'infrastructures, parmi lesquelles le musée des horloges à Chengdu, un grand bâtiment circulaire en briques qui offre un puits de lumière en son centre, mais aussi, Marie, une maternité pour panda, figurez-vous. Alors, ce prix récompense l'architecture poétique de Liu Jiankun, qui intègre toujours ses bâtiments avec harmonie dans le paysage, tout en cherchant à s'adapter aux usages des populations locales et à la vie quotidienne. Une architecture qui évite l'écueil de la grandiloquence et l'obsolescence pour rechercher une beauté utilitaire et durable. Créé en 1979, le Pritzker est la plus haute récompense dans le domaine de l'architecture et compte parmi ses lauréats Jean Nouvel, Franck Guéry ou encore Zaha Hadid.
La BPI, la Bibliothèque publique d'information, vient de commencer son déménagement.
Située au cœur du centre Pompidou, la BPI vient de fermer ses portes pour les 5 années de travaux qui commenceront en septembre sur l'ensemble du bâtiment de Renzo Piano. En attendant, la bibliothèque va déménager dans le bâtiment Lumière, situé à Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Le déménagement de ses 300 000 ouvrages et périodiques va se faire sur plusieurs mois et le lieu ne rouvrira ses portes au public qu'à la fin du mois d'août. Ce nouvel espace, d'une superficie plus petite, pourra accueillir 1500 lecteurs contre les 2000 précédemment, mais il gardera néanmoins les mêmes horaires. Les nombreux événements qui avaient l'habitude de se tenir à la BPI se dérouleront quant à eux dans d'autres lieux de la capitale.
Et pour finir, Marie, le dessinateur Willem va recevoir ce soir le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, le caricaturiste néerlandais, âgé de 83 ans, se verra remettre des mains de l'académicienne Catherine Meurice ce prix sous la coupole de l'Institut de France. Cette distinction vient récompenser une longue carrière de Willem qui a croqué l'actualité durant 40 ans pour le journal Libération, mais aussi pendant plus de 3 décennies pour Charlie Hebdo. Ses dessins d'actualité en noir et blanc à l'humour caustique ont accompagné plusieurs générations de lecteurs. Créé en 2023, le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts Beaux-Arts offre à son lauréat la somme de 30 000 euros.
Merci Marie, puis on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.